troisième thème, l'éducation.
Et oui, je suis ravi d'abord de dire qu'on passe à ce sujet, l'éducation. Dernière thématique de ce débat, c'est un sujet qui nous concerne à Fréquence IE puisque nos studios sont situés au sein d'une cité scolaire, pour ceux qui l'ignoraient. C'est aussi un sujet qui nous concerne tous. Comment assurer à nos jeunes une bonne éducation et surtout, comment assurer une éducation dans de bonnes conditions? Alors, c'est une campagne clivée sur le sujet jusqu'au fondement même de la pédagogie, alors que certains en réclament une plus dure. Au-delà même de la pédagogie, c'est aussi la question des moyens qui est discutée, évidemment, notamment en rural, avec de nombreuses fermetures de classes, des moyens qui manquent aussi à certains étudiants dans l'enseignement supérieur qui ne peuvent parfois aller jusqu'au bout de leurs études. Mes questions sont donc très simples, très larges, pour qu'on puisse débattre de tout ça avec votre parti au pouvoir. Quel changement pour l'école, quel changement pour l'éducation et quels moyens pour l'éducation et pour les étudiants pour leur permettre tout simplement d'étudier? La parole est à Arnaud Rabette.
L'éducation aujourd'hui est à l'image des autres services publics, c'est-à-dire qu'elle connaît une dégradation continuelle des conditions d'accueil des élèves et des conditions de travail des personnels qui y exercent. La crise sanitaire, d'ailleurs, a révélé encore plus le fait que dans les établissements, comme dans les hôpitaux, d'ailleurs, ce sont les petites mains, les travailleurs du rang qui ont permis de surmonter cette crise. Mais avec quel retour du gouvernement? Il y a eu des félicitations, il y a eu des applaudissements, mais au final, le gouvernement, il a continué à faire des économies en supprimant des postes, en allouant de moins en moins de moyens dans les établissements, en développant la précarité. Il faut savoir, par exemple, que dans quasiment tous les collèges du département, les heures d'enseignement allouées par le rectorat sont en baisse, alors qu'avec les deux années passées en enseignement à distance, il aurait fallu justement mettre le paquet pour rattraper le retard. Alors, l'éducation, comme la santé ou les transports, sont des services publics nécessaires et vitaux aux classes populaires. Mais l'État, depuis des décennies, quels que soient les gouvernements, d'ailleurs qu'ils soient de gauche, de droite ou macronistes, n'ont cessé de les réduire à peau de chagrin. Le gouvernement, d'ailleurs, a même continué à supprimer des lits d'hôpitaux l'année dernière en pleine pandémie. L'État est préoccupé avant tout de garantir les affaires des grandes entreprises. Le quoi qu'il en coûte, ou le dernier plan de résilience de Macron, par exemple, qui est de 25 milliards, ne sert qu'à déverser des milliards d'argent public dans les caisses du patronat, et en particulier du plus grand. C'est pour cela qu'il continue sa politique d'économie dans les services publics, et tant pis, si ceux-ci disparaissent, c'est le grand patronat et les plus riches avant tout. C'est exactement la politique contraire qu'il faut mettre en œuvre. Il faut embaucher massivement dans les services publics, dans la santé comme dans l'éducation, qui devrait être la priorité justement d'un gouvernement au service des classes populaires. Et je rajouterais qu'avec la guerre en Ukraine, l'État a décidé d'augmenter encore le budget de l'armée comme le font tous les pays développés. Cette militarisation croissante se fera aussi au détriment des services publics. Non seulement cela renforce le risque d'embrasement général, mais l'addition sera aussi payée par les classes populaires. Et d'une manière plus générale, oui, le capitalisme nous mène dans le mur. Alors quel avenir, parce qu'on parle d'éducation, quel avenir pour la jeunesse dans cette société qui sacrifie des secteurs aussi essentiels que l'éducation ou la santé et qui dépense des milliards pour l'armement et qui, en filigrane à cette jeunesse, lui promet la guerre?
Merci. Thomas Rossignol, La République en marche.
Merci. Alors, le thème de l'éducation, il est à la fois incroyablement crucial, incroyablement compliqué, et en même temps, on est nombreux ici, je pense, à avoir des enfants, nos attentes sont in fine assez simples. Ce qu'on attend de l'école, c'est que nos enfants y vivent mieux, qu'ils s'y sentent bien, premièrement parce que le fait de ne pas se sentir menacé, se sentir mal à l'aise quand on est à l'école, c'est un impératif républicain qui n'est pas négociable, mais en plus, parce qu'on ne va pas se mentir, personne ne peut bien apprendre s'il ne se sent pas bien à l'école. La deuxième chose, c'est de mieux apprendre, parce qu'on est à l'école pour apprendre, on est à l'école pour se préparer au métier de demain et à la vie qui nous attend. Et la troisième, c'est de mieux se former et s'orienter. Donc ça concerne à la fois les enfants, mais également les enseignants. Et à ce titre, je suis particulièrement heureux qu'on soit dans cette émission, parce que je ne sais pas si vous, Théon, vous seriez là aujourd'hui, si vous n'aviez pas découvert la radio quand vous étiez lycéen. Mais en tout cas, l'idée et l'enjeu, c'est de permettre à des millions d'enfants de découvrir de nouveaux métiers, de découvrir de nouveaux avenirs. Et donc, c'est pour ça que le président a annoncé la semaine dernière que tous les enfants à l'école, à partir de la 5e, découvriront de nouveaux métiers, qu'on mettra, permettez-moi l'expression, le paquet sur les lycées professionnels pour que ça devienne des lycées d'excellence, pour augmenter le temps en stage de 50%, parce que, encore une fois, je pense que malgré nos différences politiques, on est tous d'accord sur le fait que si on n'a pas d'expérience, personne ne vous propose du travail. Et enfin, on améliorera la formation des enseignants et on améliorera la rémunération, parce que là, encore une fois, c'est un vieux cliché, mais tout travail mérite salaire. Et on poursuivra le dédoublement des classes, on le généralisera, parce qu'encore une fois, et je pense que tout le monde ici sera d'accord, moins il y a d'élèves dans une classe, plus les professeurs sont attentifs et mieux on vit. Merci beaucoup.
Merci Romain Vincent, résistant.
Alors, sans avoir un débit de parole trop important, parce que l'idée est assez simple chez Jean Lassalle. Déjà, quand on parle de l'éducation, il faut faire le constat que en fait, l'éducation, ça pourrait se traduire par le vivre ensemble, mais pour les enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, ça va bien ? On a du jamais vu, on a du harcèlement scolaire massif, on a des enfants qui décident de se suicider, de mettre fin à leur vie eux-mêmes, plutôt que d'essayer de régler les choses autrement. Donc le constat est très alarmant, c'est assez triste, même très triste. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ça aille bien. Alors, simplement, en 2022, tout le monde est d'accord pour dire qu'on a des connaissances très avancées en psychologie infantile, en méthode d'apprentissage, en psychologie relationnelle. Et pourtant, malgré tout ça, on oblige encore les enfants à rester assis toute la journée, du matin au soir, alors que nous, les adultes, depuis quelques années, on voit qu'il y a des salles de sport qui ont fleuri un peu partout parce qu'on nous dit « il faut bouger, c'est pas bon de rester immobile ». Mais les enfants, eux, ils ont 2 heures de PS par semaine. Et on leur dit « il faut rester assis et écouter le prof ». Tout ça pourquoi ? Parce qu'il faut qu'il y ait un maximum de Français qui aient le bac, au bout du compte, parce qu'on veut faire une société d'intellectuels. Or, aujourd'hui, quand on veut avoir un plombier qui vient réparer chez soi un tuyau, on attend 6 mois. Donc, y a, en fait, on marche sur la tête complètement, on manque de bon sens. Jean Lassalle propose des mesures qui vont de soi, mais que personne n'applique. C'est-à-dire qu'on développe dans les classes, dès le collège et au lycée, des activités manuelles, de l'artisanat. Il ne faut pas oublier que l'artisanat, c'est le premier employeur de France, qu'il manque énormément d'artisans en France. Et on continue à faire comme si de rien n'était. Donc, se concentrer sur les fondamentaux. Voilà ce que veut faire Jean Lassalle. Lire, écrire, compter. Déjà, savoir écrire sans faire de faute d'orthographe. Savoir parler en public, en français, c'est des choses basiques, mais si on veut y arriver, il faut pouvoir avoir une stratégie claire qui soit directement connectée au monde de l'emploi. Ça encore, c'est une question de choix politique. L'alternance fonctionne bien, elle a déjà fait ses preuves. Jean Lassalle propose de la généraliser de façon massive. Voilà, et puis... je voudrais dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, dans l'actualité, sociétés, je finis, on embauche maintenant en demandant de ne pas venir avec son CV et de le laisser chez soi. Pourquoi ? Parce que c'est la personnalité qui fait la différence. Donc, on voit bien qu'on est en train de changer de monde et qu'il faut faire advenir le bon sens.
Merci. Fabienne Labrette-Ménager, Les Républicains.
Merci. C'est un très beau sujet. L'école, c'est la base du vivre ensemble, c'est la fabrique de la France. Et c'est la première marche vers l'égalité des chances. Donc l'école, on y est tous passés, tous, quelles que soient nos convictions, nos différences, on a tous été à l'école. Alors on y est sortis plus tard ou plus tôt que les uns que les autres, mais en tout cas, on a tous été, on se rappelle tous, à un moment donné, d'un instituteur. Alors moi, j'appelle un instituteur, hein, ça ne se fait plus, hein, je sais, mais je pense que je suis une des plus vieilles là-dedans. Un instituteur, on se rappelle tous. D'un instituteur qui nous a aidés à un moment donné à mieux travailler, à s'intégrer et à se projeter. Aujourd'hui, il y a un jeune sur 5 qui, à 18 ans, ne maîtrise pas la lecture. C'est important. Ça veut dire que les fondamentaux, en effet, ne sont plus là. Et la base, aujourd'hui, c'est évidemment retrouver ces fondamentaux. J'étais tout à l'heure en conseil d'école et j'écoutais les professeurs des écoles et qui me disaient... En CP, au mois de février ou mars, les enfants devraient savoir prononcer 50 mots minute. Là, aujourd'hui, à Fresnay-sur-Sarthe, dans l'école, c'est 28. Donc, ça veut dire qu'il y a un relâchement. Il y a eu beaucoup de, aussi, il y a eu une perte parce qu'il y a eu le Covid, etc. Et on le sent, hein, il y a une perte, donc il y a de l'accompagnement en plus à faire. Et puis on est sur des territoires ruraux, nous ici, où on n'a pas forcément la même égalité des chances. On sort d'un CDEN, là, et qu'est-ce qu'on a vu ? Des fermetures de classes, un peu arbitraires quand même. Hein. On ferme des écoles, pas encore des écoles, on ferme des classes pour l'instant, alors que les élus mettent le paquet pour rénover leurs écoles, pour garder leurs écoles. Nous, ce que l'on propose à un moment donné, c'est un vrai projet de territoire, c'est de dire l'école, ça doit être pérenne. Et ça veut dire qu'à un moment donné, ne nous faites pas des CDEN tous les ans. Ne décidez pas tous les ans de fermer une classe ou une autre. À un moment donné, il faudrait qu'on puisse avoir un contrat de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Il faut qu'on puisse pérenniser l'éducation sur notre territoire, d'autant plus les territoires ruraux. Nous, on n'a pas la chance. Alors, on a la chance d'avoir un lycée ici à Ciel-Guillaume, mais c'est un peu loin quand même quand on est dans l'autre bout du territoire. Il n'y a pas des lycées partout. Il y a encore moins de lycées professionnels. Donc, ça veut dire qu'il faut mettre le paquet sur le primaire et l'élémentaire. C'est là qu'il faut mettre le paquet. Et puis, nous, on souhaite donner plus de liberté, plus d'autonomie aux équipes enseignantes. Alors, ça veut dire plein de choses. J'ai entendu du sport, mais ça veut dire aussi de la culture. La culture en milieu rural, c'est aujourd'hui quelque chose d'essentiel. On n'a pas forcément accès au cinéma, on n'a pas forcément accès au théâtre. Il faut laisser, à un moment donné, ce travail de liberté avec les collectivités. Il y a des choses à faire. Mais de grâce, ne fermez pas les écoles, ne fermez pas les classes tous les ans en CDEN. Il faut vraiment, vraiment faire en sorte que tous ensemble, on puisse demander, en tout cas, à ce qu'il y ait une pérennité sur le maintien des écoles. Et puis, je dirais aussi, l'école, c'est aussi l'inclusion. Il faut aussi permettre aux enfants en grande difficulté et aux enfants qui sont en position de handicap de pouvoir rentrer dans toutes les écoles de France. Et ça, ce n'est pas facile aujourd'hui. Quand on a un enfant handicapé, c'est vraiment très difficile de pouvoir accéder à l'école. Et ça, aujourd'hui, c'est l'égalité des chances. Il faut vraiment maintenir. C'est notre modèle français. Le modèle français, c'est celui-là. C'est celui qui, au fronton des écoles, il y a un drapeau bleu, blanc, rouge. Liberté, égalité, fraternité. Merci. Il faut le maintenir.
Merci. Ouais. Sébastien Buard, Reconquête.
Oui, merci. Évidemment, l'école, c'est un beau sujet, en effet. C'est un grand sujet. On entend ce soir parler de l'école comme un centre de formation d'apprentis ou quelque chose qui mène vers quelque chose de professionnel. On entend la question des moyens. On entend la question de vivre ensemble. On n'entend pas la question de l'école. C'est quoi, au départ, l'école, c'est transmettre des savoirs. L'école, au départ, c'est quand même transmettre des savoirs. Moi, j'ai des enfants, j'éduque mes enfants. Vous voyez, moi, ce que j'attends de l'école, quand je mets mes enfants à l'école, c'est qu'ils apprennent des choses. Et en effet, il y a, au niveau 6e, moyenne nationale, 30% des élèves arrivent en 6e sans savoir lire correctement. Et dans les zones d'éducation prioritaire, ça monte à 50% des élèves. De ministère en ministère, de gouvernement en gouvernement, on nous promet toujours la même chose. Le retour aux savoirs fondamentaux, lire, écrire, compter, etc., etc. Et finalement, on cède toujours ça, toujours, au vivre ensemble, aux compétences psychosociales, etc., etc., etc. L'école doit revenir sur ses fondamentaux. L'école, ça doit être un lieu où on apprend sa langue, où on apprend sa culture, où on apprend les mathématiques, on apprend à écrire, et où aussi on apprend justement notre histoire, ce qu'est être français, par exemple. Vous voyez, l'école, c'est tout ça à la base. Et là, j'ai l'impression qu'on l'a complètement oublié ce soir. On parle de l'école comme si c'était simplement quelque chose de pragmatique pour l'avenir, comme s'il fallait juste construire de futurs professionnels ou comme s'il fallait juste apprendre aux enfants à bien se comporter. Moi, encore une fois, j'ai des enfants. C'est moi qui les éduquerai pour qu'ils puissent se comporter bien avec les autres. Donc, la question du harcèlement, moi, vous savez, l'école, elle est envahie aujourd'hui de tous ces dispositifs, de tous ces dispositifs. Alors, les mesures qu'on propose, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je pourrais rester très longtemps sur le sujet. Les mesures qu'on propose, c'est justement d'axer sur le primaire, vraiment, et le faire cette fois, la transmission du lire, écrire, compter, et que l'école primaire, ce soit ça. Et à la fin de l'école primaire, avant de passer au collège, il faut un test pour les élèves. Il faut tester les élèves pour savoir s'ils ont le niveau, s'ils ont les prérequis, les compétences pour pouvoir passer au niveau du collège. Et s'ils ne l'ont pas, il faut adapter des mesures là-dessus. Il y a aussi quelque chose sur lequel il faut absolument mettre un terme, c'est le collège unique. Le collège unique, ça a été cette grande idée, cette grande idéologie qu'on pouvait mettre dans une classe tous les profils d'élèves et que tout ça, ça allait très bien marcher. Il faut le collège unique, il faut s'en débarrasser. Et il faut pouvoir proposer dès la quatrième, justement, la voie professionnelle, et une vraie voie professionnelle, pas une voie par défaut, où on met les enfants quand finalement ils ont de mauvais résultats scolaires, vous voyez. Et on traîne les enfants jusqu'en troisième, ils s'ennuient énormément.
Merci.
Et à la fin de la troisième, donc la fin du collège unique et le retour des fondamentaux, et que l'école redevienne ce qu'elle est, c'est-à-dire l'école.
Merci Pierre Vaugarny pour le Rassemblement national.
Vous savez, c'est, l'éducation, c'est aussi l'exemple que l'argent ne fait pas tout. On met dans ce pays énormément d'argent. Le budget d'éducation, c'est énorme, avec des résultats internationaux. Nous ne cessons de chuter. Comme ça a été dit, effectivement, il faut d'abord consolider les fondamentaux. En 2022, en France, imaginez qu'il y a des jeunes qui sortent sans savoir ni lire, ni écrire, ni compter. C'est simplement impensable. Consolider les fondamentaux, c'est consolider l'école primaire. Ça veut aussi dire avoir un minimum de respect quand même pour ce qu'on appelle les professeurs des écoles. C'est comme ça qu'on dit. Vous savez, vous avez des gens qui sortent, qui sont les moins bien vus à l'éducation nationale, 1300 euros, si je ne dis pas de bêtises, lorsque vous avez fait Bac plus 5, lorsque vous avez 30, 40 ou 50 élèves à qui vous allez devoir donner des fondamentaux, je pense que ce n'est pas digne. Ce que je voulais dire également, évidemment, les filières professionnelles, on voit bien, les filières professionnelles doivent être renforcées. Ce dogme du 100% de bachelier, c'est stupide. C'est stupide pour une simple et bonne raison. D'abord, c'est que le bac ne vaut plus rien. Ces examens doivent valoir et on doit conserver une certaine hiérarchie. Ce que je veux dire également, c'est qu'on a des étudiants aujourd'hui qui sont dans des situations de précarité qui sont absolument insupportables. Voir des étudiants qui sont dans des formations longues et qui sont obligés qui n'ont pas de logement, qui sont obligés de dormir dans des voitures, c'est indigne de notre pays. Marine Le Pen propose 100 000 logements étudiants ainsi que la gratuité des transports. Un dernier tout petit mot qui n'a pas été dit. La formation, ça ne concerne pas que les jeunes. On a une vraie lacune dans ce pays. La formation adulte et notamment la capacité à des adultes au moment de leur carrière professionnelle de pouvoir évoluer, c'est également quelque chose d'important sur lequel on ne fait pas assez. Merci.
Merci. Nathalie Buchot, Europe Écologie, Les Verts.
Le président de la République, Emmanuel Macron, n'a même pas daigné remercier la communauté éducative pendant son investissement durant la pandémie. L'éducation, c'est pourtant le pilier de la société. Et c'est donc celui du programme présidentiel de Yannick Jadot. Nous voulons que l'éducation soit un service public, juste, inclusif et sans mépris. L'éducation, ce n'est pas que l'école, c'est aussi la culture et le partage des cultures. Enlever la redevance audiovisuelle, c'est enlever ce débat public qui est si présent. Les radios sont financées par la redevance audiovisuelle. L'école, pour les écologistes et le programme écologie, c'est l'école de la coopération, de la nature et des savoirs pratiques. Aujourd'hui, il est nécessaire de réparer l'école. Il faut un programme de formation professionnelle en continu pour les jeunes, mais aussi pour les adultes, tout au long de leur vie. Avec un projet pédagogique qui se co-construit en concertation avec les enseignants, il y a l'histoire de France, mais il y a aussi apprendre à vivre avec le futur, à anticiper et à prévenir. Prévenir la fermeture des écoles et lutter contre cette fermeture des écoles, notamment en milieu rural. À Mézières sous la Vardin, bientôt, il y a des pétitions. Enfin, je ne suis pas allée ce matin en retraite, mais j'ai signé la pétition pour Mézières sous la Vardin. Voilà. La réalité du programme présidentiel de Yannick Jadot, c'est 65 000 enseignants, avec des 65 000 enseignants en plus, et avec des enseignants qui sont remplacés à chaque fois. C'est 1 000 assistants sociaux de prévus, 2 000 médecins scolaires aussi, parce que la santé à l'école, c'est important, avec 3 000 infirmières et infirmiers.
Merci. Vincent Blin, l'Union Populaire. Merci. Oh, vous n'avez pas fini?
Ah bah non, mais vous avez du temps.
Pas du tout fini. Je n'ai pas du tout fini. Tout ceci pour pouvoir assurer un suivi individualisé auprès des enfants, parce que ce n'est pas l'école des élites et ce n'est pas l'école de la compétition, c'est l'école de la coopération. On donne une priorité dès le départ à la maternelle, et avec une augmentation des salaires aussi de 20% pour les enseignants. Une éducation à la santé aussi, une éducation à la sexualité et une éducation à l'égalité des genres. une éducation à l'alimentation saine, avec 100% de produits bio et locaux dans tous les restaurants scolaires, qu'ils soient en milieu rural ou en milieu urbain.
Vous pensez vraiment que c'est le rôle de l'école, c'est d'éduquer à bien manger, d'éduquer...
Oui, c'est ce que je dis.
Vous avez des enfants où vous déchargez sur l'école la responsabilité d'apprendre à vos enfants à bien manger.
Non, c'est pas une décharge, c'est une proposition. Non, c'est pas parce que l'école fait que les parents doivent se décharger.
Ce que vous devez savoir, madame, c'est que quand on le fait à l'école, il y a des choses qu'on ne fait plus, du coup. Ça prend la place d'autres choses.
Bah, pas du tout.
Ah bon, ça prend du temps quand même. Vous savez, une journée, c'est restreint. Il y a 6 heures, les élèves sont là 6 heures. Si pendant les 6 heures, on fait l'écologie...
Non, je parle pas de ça. Qu'on donne à manger de la malbouffe à la cantine ou de l'alimentation saine.
Absolument.
Et qui profite à des revenus d'agriculteurs.
Oui, je parle d'éducation.
Non. Oui, je parle de l'éducation. Mmh. Je parle de l'éducation. Mmh. L'éducation, ce n'est pas simplement savoir lire, écrire et compter.
L'éducation, c'est les familles qui donnent l'éducation.
Très court.
Donc, avec la création d'un statut et d'une formation pour les aidants auprès des élèves en situation de handicap. Voilà.
Merci. Vincent Blin, donc cette fois-ci, c'est bon.
Merci.
Vincent Blin, l'Union Populaire.
L'éducation publique laïque est ouverte à toutes et tous. Elle est pourtant fortement affaiblie par 15 ans de politique destructrice. Lors du dernier quinquennat, les réformes de Jean-Michel Blanquer, s'inspirant de ses prédécesseurs, ont conduit à mettre en concurrence l'ensemble des écoles, des collèges et des lycées, comme Mme Pécresse l'avait initié avec les universités. La réforme Parcoursup, par exemple, prouve que cette concurrence ne sert ni l'éducation nationale, ni les élèves. Pensez qu'à diplôme équivalent, l'Université de Paris-Dauphine validera la demande d'inscription d'un bachelier du lycée Paul Scarron, dont on a parlé, ici à Sillé, ayant obtenu une mention très bien, ou préférera-t-elle valider celle d'un élève du lycée Henri IV à Paris? Ce système encourage et privilégie la reproduction sociale, la reproduction des réussites, certes, mais surtout des échecs. Inégalité d'accès aux connaissances, inégalité de traitement dans les parcours d'études. Ils sont enfermés dans leur logique de rationalisation. Crise du recrutement. Soutien de plus en plus affirmé aux établissements d'enseignement privés. La région Pays de Loire, détenue par LR, a subventionné la création d'écoles privées à Angers ou encore au Mans. Pendant ce temps-là, le maire du Mans faisait sa grande rentrée éducative en septembre 2021 à l'Institut catholique de l'Ouest. Le ton est donné. Et surtout une précarité qui s'installe et se généralise. Le taux de contractuels dans la fonction publique, et plus spécifiquement dans l'éducation nationale, ne fait que croître. Comment se projeter dans un projet éducatif sur plusieurs années lorsqu'on ne sait même pas si l'on sera renouvelé l'année prochaine? Classes surchargées, locaux insalubres, une direction pour deux écoles dans deux villages différents, comme c'est le cas à Fillé, par exemple. C'est ainsi que l'école, l'éducation fonctionne. Et ensuite, on viendrait critiquer la qualité de l'enseignement dispensé à nos enfants. Ce qu'il se passe au sein du système éducatif est exactement ce qui s'est passé dans le monde hospitalier. Rationalisation, autonomie, course aux économies, et surtout perte du sens de la mission première. Soigner. L'éducation doit-elle devenir un fonds de commerce? Celles et ceux qui auraient les moyens financiers et sociaux doivent-ils être les seuls à pouvoir en bénéficier? C'est le projet des sociodémocrates et de la droite. Les gouvernements précédents ont imposé l'autonomie aux universités sans leur donner les moyens de fonctionner correctement. Sur les 75 universités en France, plus de 20% sont en déficit chaque année, faute de moyens, faute de soutien. Et le projet de l'équipe sortante serait d'appliquer ce modèle aux écoles et aux établissements du secondaire, d'augmenter les frais d'inscription à l'université pour bien s'assurer que le petit peuple ne puisse pas s'élever et venir jouer les troubles faits. Quant à la modulation des programmes, selon les établissements, proposés par La République En Marche, pour quelles raisons deux quartiers différents, deux communes différentes recevraient une éducation différente? Là encore, le projet de transformer la carte scolaire en marché des inégalités du savoir. Cette semaine encore en Sarthe, 90 enseignants non remplacés, des centaines d'élèves sans professeurs. Nous devons réduire les disparités en apportant plus de moyens où il y en a besoin, dispenser le même programme sur tout le territoire. Pour ce qui est des diplômes, seul l'État doit pouvoir les délivrer. L'école est un pilier de la République. Elle forme des citoyens libres et surtout prépare la nation au futur dans les meilleures conditions.
Merci.
J'ai pas fini, je suis désolé.
Ah, et le temps est terminé. Rapidement, alors.
Avec les défis qui s'imposent à nous, notamment écologiques, nous avons besoin d'une jeunesse hautement qualifiée pour les relever. Comment y arriverons-nous? 160 000 enseignants recrutés, 100 000 classes ouvertes, 19 élèves par classe, c'est la moyenne européenne. 30% d'augmentation des salaires, la gratuité de la maternelle à l'université et la retraite à 60 ans. Merci.
Merci. Cécile Bail de GC, Debout la France.
Depuis près d'un demi-siècle, l'école vit un véritable naufrage, accentué par des ministres qui ont placé l'épanouissement immédiat de l'enfant roi au centre du système au détriment de l'apprentissage des connaissances, du mérite et de l'élévation sociale. les professeurs voient leur autorité sans cesse remise en question, par des élèves dissipés et à qui le système scolaire trouve toujours des excuses. C'est en imposant une vraie rigueur dans la discipline comme dans la transmission des savoirs que nous parviendrons à rendre à chacun toutes ses chances. Nicolas Dupont-Aignan réfute fermement toutes les théories fumeuses, mouvances dites woke, importées des États-Unis, qui menacent l'équilibre de nos plus jeunes. Les classements internationaux qui attestent une baisse de niveau de nos enfants en primaire et dans le secondaire ne peuvent être écartés d'un revers de la main. Il y a urgence. Nicolas Dupont-Aignan veut une politique radicalement différente en matière d'instruction publique, remettre debout l'école de la République en la déclinant sur 4 piliers simples. Donner la priorité aux savoirs fondamentaux, et en particulier les maths qui ont été supprimées en grande partie dans les lycées, et revenir sur les notations chiffrées. Revaloriser les voies professionnelles et technologiques pour anticiper les besoins du fabriqué en France et faire de l'apprentissage en alternance une cause nationale. Restaurer l'autorité des professeurs et la confiance en l'institution scolaire et en particulier sensibiliser les élèves aux dangers de l'usage abusif des réseaux sociaux. Revaloriser le métier d'enseignant et mieux former les jeunes professeurs. Revaloriser les salaires des professeurs, 20% automatiquement pour tous les professeurs et 20% supplémentaires en contrepartie d'heures de soutien scolaire auprès des élèves en difficulté. Nicolas Dupont-Aignan créera un grand ministère de l'instruction, car l'instruction, c'est le rôle de l'école, l'éducation, c'est le rôle des parents. Le projet pour l'école de la République de Nicolas Dupont-Aignan est décliné en 40 mesures que vous pourrez trouver sur le site NDA 2022.
Merci, voilà. Cécile Bayle de GSC. Fin du tour de table, Dylan Bénaud pour le Parti Socialiste.
Merci. Alors l'éducation ou l'instruction, selon ce que chacun en pense, en tout cas c'est ce qui nous construit, c'est ce qui nous construit. Alors oui, on apprend à lire, à écrire, à compter, mais c'est aussi l'endroit, l'école, où on apprend à vivre ensemble. Qu'on apprend à vivre ensemble, peu importe qui l'on est et d'où l'on vient, c'est ce qui nous forme aussi en tant que citoyens. L'éducation, c'est son rôle. Actuellement, on a quand même chaque année 100 000 jeunes qui quittent le système scolaire sans diplôme, sans qualification. Et ça, c'est plus possible aujourd'hui. Alors, avec Anne Hidalgo, nous proposons en effet de développer l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est aussi l'alternance. C'est pas seulement un CAP, c'est pas seulement des lycées professionnels. Ça va au-delà. L'alternance, ça peut aller jusqu'au master. Et on veut le développer et l'inciter même, notamment dans les secteurs sous-dotés. J'ai entendu donc Monsieur Rossignol nous parler donc du dédoublement des classes. Évidemment, je ne peux qu'être d'accord avec cette proposition, mais moi, voyez-vous, ce qui me gêne, c'est que quand on déshabille Pierre pour habiller Jacques, c'est pas la solution. Hein. En juin dernier, j'étais aux manifestations. Vous voyez, Monsieur Le Proust, j'ai pas pu être là ce matin parce que je travaillais. Mais j'étais présent aux manifestations pour lutter contre les fermetures de classes et vous n'y étiez pas. Mais bon, ça n'empêche pas de soutenir la cause. J'étais aux côtés des parents pour lutter contre les fermetures de classes parce que c'est pas été que des menaces. Il y a eu des fermetures à Sillé, à Crissé, à Roissévassé, à Paraine. Et j'ai soutenu, comme ma collègue Madame Buchot, je soutiens d'ailleurs la pétition donc pour l'école donc de Neuville-Allée, Mézières et Verny. Quand le président Macron nous dit qu'il faut préserver ce qu'on a, qu'il n'y a plus de fermeture de classe sans l'accord des maires, demandez aux maires du Nord-Sarthe s'ils ont leur a demandé leur accord pour fermer les classes. Je ne pense pas, j'en suis même certain. On parle aussi d'éducation, mais on oublie la jeunesse. Et la jeunesse, voyez-vous, c'est une grande partie qui, à l'université, saute un repas tous les jours. C'est la création, sous Emmanuel Macron, de grandes files d'attente à l'aide alimentaire. Pour ça, nous proposons l'augmentation notamment du nombre de boursiers et des bourses. Nous proposons notamment aussi que les stages soient rémunérés, et ce, dès le premier jour, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Enfin, pour terminer rapidement, sur quelques propositions, nous proposons la suppression de Parcoursup, de créer des places, notamment dans les filières sous tension, un service public de la petite enfance pour que chaque famille bénéficie d'un droit à un mode de garde collectif, ou encore donc le refus des suppressions de postes, enfin de classes, et mieux rémunérer nos professeurs. Voilà le programme d'Anne Hidalgo.
Merci. Il reste un peu de temps à Gilles Leproust et Thomas Rossignol pour prendre la parole, si vous voulez répondre à ce qui a été dit.
Ah bah, s'il me reste d'autant plus de temps, je ne suis pas intervenu sur l'éducation, donc il faut que je dise trois mots, si vous voulez bien. Ça. Non, je suis quand même, je ne suis pas endormi. Non, plus sérieusement, pour vos auditeurs, des fois, les gens s'interrogent s'il y a des différences entre la droite, la gauche, l'extrême droite. Après ce tour de table sur l'éducation, je veux dire, il y a des propos qui m'ont fait froid dans le dos. J'ai deux petits-fils de 5 et 7 ans. Je veux dire, j'espère qu'ils ne tomberont jamais sur des enseignants qui portent les idées des représentants du Rassemblement national et du parti de Zemmour. Parce que là, ça fait froid dans le dos, quoi. Et puis, je trouve qu'il y a eu... Je ne suis pas intervenu la première fois où il y a déjà eu une critique sur l'argent dépensé dans la politique de la ville. Là, écoutez, le représentant de M. Zemmour, 50% des gamins des quartiers populaires, s'il vous plaît, je ne vous ai pas interrompu, vous allez me laisser parler. Je ne vous ai pas interrompu, vous allez me laisser parler, s'il vous plaît. Vous allez apprendre un peu un débat, comment on s'écoute les uns les autres et on se respecte. Et donc, vous avez été méprisant, y compris pour les mômes des quartiers populaires, où un sur deux... Ah, mais vous êtes meilleur que tout le monde. Vous venez vivre. Moi, j'y vais en permanence. Je suis maire d'une ville populaire. Et les gamins des villes populaires font des choses extraordinaires avec leurs parents, avec les enseignants, avec les responsables associatifs. Et je suis très fier des parcours remarquables que nous avons dans nos quartiers populaires. Je
ferme la... C'est remarquable aussi, l'école de la mosquée d'Alonne.
C'est Monsieur Zemmour, calmez-vous, le représentant de Monsieur Zemmour. Vous êtes les mêmes. Ils vous ont cloné. Fabien Roussel a fait de la jeunesse et de l'éducation ses priorités. Parce que c'est le présent et l'avenir d'un pays d'investir dans l'éducation. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le bilan du président Macron, et surtout de son ministre Blanquer, parce que lui, c'était le pompon, lui. Provocateur avec les enseignants, déstructurant les établissements. Et quand j'entends les propositions qu'a fait le président Macron là, pour le cycle à venir, en gros, lui, son rêve, on l'avait déjà eu dans les cartons il y a quelques années, c'est de faire que chaque directeur d'école ou de principal ou de proviseur devienne des petits responsables d'entreprise. Ça ne marche pas comme ça.
Il va falloir conclure,
s'il vous plaît. C'est pas une réponse. Et donc... Il faut vraiment investir, et Fabien Roussel propose d'investir fortement à la fois dans la création de postes, d'enseignants, mais y compris de tout ce qu'on a besoin à l'école, infirmière, médecin, psychologue. Il faut la gratuité, ça peut être dit là, la gratuité de l'école. Aujourd'hui, l'école, ça coûte cher pour les parents. Et ça augmente les inégalités entre les uns et les autres.
Merci. Alors Thomas Rossignol, il vous reste un petit peu de temps si vous voulez vous exprimer.
Oui, merci. En fait, moi, je trouve que ce thème de l'éducation, qui est peut-être le plus passionnel qu'on a eu ce soir, il illustre très bien le débat démocratique. En fait, on partage tous nos idées, mais c'est aussi important d'écouter celles des autres. Et moi, la liste pourrait être longue, mais j'entends certains collègues nous dire qu'il faut bouger plus à l'école. Entièrement d'accord. C'est pour ça que le président a annoncé qu'on aurait 30 minutes de sport en plus, au primaire et 2 heures de plus par semaine au collège. Un jeune sur 5 ne maîtrise pas les fondamentaux. 3 fois oui, c'est pour ça qu'on augmente l'enseignement du français et des mathématiques à l'école. Sur le sujet précédent...
Vous supprimez les maths ? Oui. Si aujourd'hui vous dites que c'est important ?
Sur le sujet... Alors, je peux répondre aux réponses, mais du coup, je vais parler un peu plus que les autres.
Vous nous dites que, pendant 5 ans, vous allez faire tout ce que vous n'avez pas fait, là, alors que vous étiez au pouvoir ?
Alors, je vais venir. Sur le fait, la liste serait même très très longue, parce que je pourrais même évoquer les thèmes qui ont été débattus précédemment. Le logement... est une préoccupation principale pour les Français, entièrement d'accord. C'est pour ça qu'on a supprimé la taxe d'habitation.
Il y a beaucoup de débats sur le logement actuellement.
C'est pour ça qu'on a supprimé la taxe d'habitation. Et en fait, sur tous ces sujets...
Quelle recette pour les communes ?
Je vous remercie, s'il vous plaît. Je vous remercie quand vous soutenez le programme du président. Et du coup, moi, ce que j'espère, c'est pouvoir compter que le président, s'il est réélu, pourra compter sur le soutien à l'Assemblée de tous les parlementaires des partis que vous représentez pour porter les lois dont vous prétendez, en tout cas, qu'elles viennent de chez vous. Et moi, encore une fois, je le dis en un mot, peu importe qu'une idée soit de gauche ou de droite, si elle est bonne, elle est bonne. Et il faut la défendre. Et on n'a pas tout inventé, le président n'a pas tout inventé. L'intérêt, c'est d'essayer de faire de son mieux, de toujours faire de son mieux, et de reconnaître qu'on peut tous apprendre les uns des autres.
Merci. Merci pour cette fin de partie sur l'éducation. On va conclure maintenant, si vous voulez bien, ce débat. Alors, on va reprendre le sens inverse du sens du début. Donc, on va partir par Madame Cécile Bayle de Gessé. Et je vous laisse une minute pour nous dire pourquoi il faut voter pour votre candidat à l'élection présidentielle du 10 et 24 avril prochain.
Alors, le 10 avril, je voterai et je ferai voter pour Nicolas Dupont-Aignan. Il est évident que Nicolas Dupont-Aignan a l'étoffe d'un chef d'État. Il a l'expérience de la gestion et je lui fais confiance pour gérer notre pays comme il a redressé la ville. Et pour cela, il est le seul à avoir écrit un livre en octobre dernier, « Où va le pognon ?», reprenant, comme j'ai dit tout à l'heure, le terme méprisant d'Emmanuel Macron, dans lequel il chiffre et explique comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France. Nicolas Dupont-Aignan a toujours voulu nettoyer la politique. Il a été désigné en 2013 député de l'année pour son rapport sur les paradis fiscaux et sur les solutions pour baisser les impôts des Français. Comme je l'ai dit, Nicolas Dupont-Aignan est gaulliste social, il aime son pays et ne peut supporter de le voir mourir depuis plusieurs décennies, en particulier avec le président actuel. La France n'est plus un modèle au niveau mondial, elle a perdu des places dans le domaine économique, éducatif, social. Nos joyaux industriels ont été bradés, elle est depuis 5 ans scandaleusement endettée. Nicolas Dupont-Aignan est le seul capable de rassembler parce qu'il est proche des gens, qu'il a des solutions pour redonner l'espoir à tous les Français. Nicolas Dupont-Aignan n'est ni extrême ni dans la compromission mondialiste. Depuis des mois, les médias et les sondages veulent nous imposer leur président. Ne nous laissons pas manipuler. Nous avons la chance d'avoir encore la possibilité de nous exprimer. Il faut voter Nicolas Dupont-Aignan qui défendra nos libertés d'aller et venir, de choisir, notre façon de vivre et de penser.
Merci beaucoup. La parole est à Fabienne Lavrette-Ménager pour le Parti Les Républicains.
Merci. Une minute, c'est compliqué, mais bon, on va essayer quand même. Hein. Oui. Bon, évidemment, moi, je soutiens la candidature de Valérie Pécresse depuis le début, parce que nous, on a fait notre évolution. C'est la première fois qu'on a une femme candidate, hein, quand même, au niveau des LR. Donc, on est plutôt fiers de ça. Mais c'est pas le débat. Le débat, c'est aujourd'hui, c'est la seule qui a un programme qui tient la route et un programme chiffré. Alors évidemment, on promet pas le grand soir. C'est pas sexy de dire je vais faire des économies, mais c'est pourtant ça. Le quoi qu'il en coûte, il va falloir à un moment donné. Je suis sûre que vous êtes tous d'accord. Il va falloir à un moment donné, eh bien l'évaluer ce quoi qu'il en coûte. Où est-ce que ça va? Nous on ne veut pas que les générations futures payent les erreurs d'aujourd'hui et notamment les erreurs de Monsieur Macron. Il faut absolument qu'on puisse redresser la France, la protéger les Français et faire de ce pays ce beau pays qui est avec ses trois avec la liberté, égalité, fraternité, avec ce drapeau français que le général de Gaulle a voulu, avec un aménagement du territoire, avec une égalité des chances. Et puis Valérie Pécresse, c'est quelqu'un qui aujourd'hui gère la plus grande région d'Europe. Hein. Donc c'est pas quelqu'un qui a eu de l'expérience, en tant que ministre plusieurs fois. Et moi je la soutiens et j'espère en tout cas très fort que les Français la soutiendront.
Merci. Merci Nathalie Buchot.
Au nom de Yannick Jadot, des écologistes, je m'adresse aux auditeurs et aux auditrices, aux Sartois et aux Sartoises de cette émission. Rendez-vous demain à Conly, 19h30, à la salle de l'Hôtel de Ville, où nous parlerons de l'agriculture, de la santé et de l'alimentation, avec Claude Gruffat, député européen, qui se déplace à Conly. Vous voyez que la fracture rurale, on y pense. Comme levier de justice sociale et climatique. Le projet des Verts, c'est le seul projet cohérent et pragmatique.
Merci, Dylan Bénaud.
Moi, je vais conclure par une question. La question, c'est quelle France voulons-nous ? Voulons-nous de cette France prônée par les extrêmes, où nous vivrions dans la peur les uns contre les autres, où nous serions dans un état d'insécurité permanente et que l'immigration en serait seule responsable ? Je ne pense pas. Voulons-nous de cette France ultralibérale représentée par le duo Macron-Pécresse, que très peu de choses séparent, où on supprimerait encore des fonctionnaires, où il faudrait la retraite à 65 ans, une nouvelle réforme de l'assurance chômage et du code du travail, toujours plus d'insécurité sociale et d'inégalité? Je ne pense pas. Ou alors, est-ce que nous voulons de cette France émancipatrice, qui lutte contre les inégalités, où on augmente le pouvoir d'achat, qui lutte contre les désertifications médicales avec la régulation et l'installation des médecins et qui permettent l'accès aux soins et aux services publics sur tout le territoire. Une candidate qui sanctuarisera la retraite à 62 ans et qui maintiendra notre système par répartition. En tout cas, moi, c'est le choix que je fais. Je voterai socialiste. Soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers d'être français. Et surtout, pour la démocratie, allez voter.
Merci, Vincent Blin.
À toutes celles et ceux qui doutent, à toutes celles et ceux qui sont déçus, dégoûtés, sceptiques, je veux adresser ce message simple. Un autre monde est possible, avec une 6e République, avec la planification écologique, avec le partage des richesses de notre pays. Nous, citoyennes et citoyens, nous pouvons devenir les acteurs de notre système politique afin d'en finir avec la précarité, les injustices sociales, la malbouffe et le saccage de notre planète. Nous pouvons arrêter de subir les décisions d'une élite qui ne se soucie pas du bien commun. Nous pouvons offrir à nos enfants un monde plus juste, plus respectueux, plus sain, plus humain. Voter Jean-Luc Mélenchon est la chance historique de battre l'extrême droite dès le premier tour. Ne boudons pas cette chance.
Merci. Sébastien Buard.
Oui, merci. Donc, c'est très court. Donc, je vais commencer par inviter les auditeurs. Là, demain, on organise un meeting à Marais-sur-Loire. Donc, on reparlera éducation. Donc, si vous avez le temps, faites le déplacement. C'est dans la ruralité, Marais. Et donc, on tente ce meeting avec Stéphane Ravier et Sébastien Pilar, qui symbolisent très bien tous les deux l'union des droites que Éric Zemmour a réussi à former. Moi, je voudrais juste avertir les auditeurs. Ne vous faites pas voler encore à votre élection. C'est-à-dire que là, on se prépare à un deuxième tour. Enfin, tout est fait là dans les urnes médiatiques pour préparer un deuxième tour. Emmanuel Macron, Marine Le Pen, dont on connaît très très bien l'issue. Il y a un candidat de droite qui s'appelle Valérie Pécresse, dont on sait très bien que Valérie Pécresse, dont on sait très bien que si toute l'élection passait, elle rejoindra les ministères d'Emmanuel Macron, donc un faux candidat également. Ne vous laissez pas voler l'élection. Emmanuel Zemmour. Lui, son engagement, il est absolument sincère.
Emmanuel Zemmour.
J'ai dit ça ?
Ouais.
Eh ben, c'est drôle.
C'est drôle.
On finit
Emmanuel
sur une note d'humour.
C'est génial.
On finit sur une note d'humour, mais il y a la fatigue aussi, on n'a pas mangé. Et donc, voilà, pour revitaliser la ruralité, pour que l'école redevienne l'école et pour que la France reste la France, votez Éric Zemmour.
Merci. Pierre Vaugarny.
Merci. Plus que jamais, cette élection va être importante. Jusqu'à présent, les élections, ça ressemblait parfois à des élections de Miss France. Voilà, il y avait des choix qui correspondaient à des affinités. Aujourd'hui, on a le choix entre les mondialistes, bien représentés d'ailleurs par M. Macron, qu'ils soient de droite, de gauche, voilà, tous ces gens qui ne croient plus en la France depuis bien longtemps, qui ont bradé notre souveraineté, bradé notre économie, bradé nos services publics, bradé nos valeurs. Le tout en méprisant les Français, la France et les Français et les Françaises. Marine Le Pen est indiscutablement l'alternative crédible et construite. Malheureusement, vous savez, dans le passé, Marine Le Pen a souvent été raillée en disant « mais vous savez, tous ces problèmes de sécurité, mais off, allez ». Malheureusement, elle avait raison. Et elle a eu raison avant les autres. Personne ne le conteste aujourd'hui. Pourquoi il faut voter Marine Le Pen ? Parce qu'elle a indiscutablement aujourd'hui le programme pour défendre la France et les Français, pour leur pouvoir d'achat, leur sécurité face à une immigration galopante, face à une souveraineté que l'on a totalement bradée, une réindustrialisation qui doit véritablement se faire et une réforme de la retraite qui va définitivement précariser nos plus anciens.
Merci.
Ne laissons pas les autres décider de notre avenir en choisissant la France et les Français. Votez Marine Le Pen dès le premier tour.
Merci. Romain Vincent.
Oui, pour conclure de façon un peu plus légère, je vous propose de dresser ensemble le portrait du candidat idéal. Nous cherchons un candidat qui soit avant tout sincère et honnête. Par exemple, qui ne soit pas soumis à un mécène milliardaire. Nous cherchons un candidat qui soit prêt à risquer sa vie en posant des actes forts, comme par exemple avec une grève de la faim. Nous cherchons un candidat qui ose aller au contact des Français, comme par exemple en faisant un tour de France de 6000 km à pied. Nous cherchons un candidat qui sache réconcilier les oppositions entre vaccins et anti-vaccins, entre gilets jaunes et députés. Nous cherchons encore un candidat qui connaisse très bien le monde de l'agriculture pour l'intégrer à une écologie intelligente. Nous cherchons enfin un candidat qui incarne à la fois l'État et la France des territoires. Votez Jean Lassalle, la France authentique. À tous les auditeurs abstentionnistes, on compte sur vous pour être au second tour. JL2022.fr.
Merci Thomas Rossignol.
Merci. Au fond, pour moi, lorsqu'on se demande pour qui l'on va voter, et évidemment en ce qui me concerne, pourquoi voter pour le président de la République, la réponse est très simple. Il faut voter pour la personne dont on pense qu'elle va de toutes ses forces travailler à vous défendre, qui que vous soyez et d'où que vous veniez. Le projet de La République En Marche, s'il m'a plu au départ, et s'il a plu, je pense, à des millions de Français, c'est parce que toutes les idées y sont les bienvenues, de gauche, de droite. Il y a des militants qui viennent de la droite, des militants qui viennent du centre, des militants qui viennent de gauche, et plus encore, des militants qui n'avaient jamais été nulle part avant. Et pour moi, ce qui fait la grandeur de la France, de notre pays, c'est sa vie démocratique. Donc évidemment que j'ai envie de vous dire de voter pour le président de la République, voter pour Emmanuel Macron. Mais en fait, au-delà de tout ça, j'ai envie de vous dire d'aller voter. Si vous votez pour le candidat que je représente, je vous en remercie. Si ça n'est pas le cas, je vais probablement passer un sale quart d'heure après cette émission. Mais dans tous les cas, je vous invite à aller voter. C'est difficile de défendre un président qui est également candidat, puisqu'on est à la fois tributaire du bilan et en même temps on est censé se projeter. Moi, je dois vous dire que je suis assez à l'aise sur le bilan. Est-ce que tout a été parfait? Bien sûr que non. Est-ce que les résultats sont là? Bien sûr que oui. Oui, le chômage est le plus bas que l'on ait connu depuis que je suis né. Et oui, le pouvoir d'achat est le plus élevé depuis que je suis né. Mais ce qui m'intéresse, c'est également la suite. Est-ce que l'on peut faire mieux? Bien sûr que oui. Est-ce que le président s'y engage? Bien sûr que oui. Et à la fin des fins, merci. Pour moi, c'est la seule chose qui compte.
Merci beaucoup. Gilles Le Proust.
L'élection présidentielle est un moment important dans la vie du pays, même si je pense qu'il faut aller vers une 6e République pour redonner du pouvoir au peuple. Et dans le même temps, il y a une profonde crise de la politique. Élection après élection, il y a beaucoup d'abstention. Et l'abstention, ça devrait interroger l'ensemble des partis politiques pour les raisons. Et ça réside souvent dans le fait que les promesses n'ont pas été tenues. Eh bien, Fabien Roussel avec sa compagne, les jours heureux, a décidé de prendre cette question à bras-le-corps et d'appeler l'ensemble des femmes et des hommes de tout bord, mais particulièrement au peuple de gauche qui ne va plus voter, que ce soit au milieu rural comme au milieu urbain, et bien d'utiliser son bulletin pour mettre en avant des propositions qui ont la volonté, qui ont l'objectif de relever les défis auxquels nous sommes confrontés pour redonner effectivement de la cohérence, du vivre ensemble, de faire vivre au quotidien les devises de la République, liberté, égalité, fraternité. Et je vous donne rendez-vous pour celles et ceux qui le souhaitent poursuivre ces débats rapidement. Au grand meeting du 1er avril à 18h à Alonne, salle Jean Carmet, avec le directeur de campagne de Fabien Roussel, Yann Brossa.
Merci. On termine par Arnaud Rabet.
Alors, vu les perspectives actuelles qu'offre le système capitaliste avec le risque de guerre généralisée, les famines provoquées par l'augmentation des prix, les fermetures d'entreprises faute d'approvisionnement, les élections peuvent apparaître dérisoires. Eh bien, moi, je dis qu'elles le sont. Et pour les travailleurs, rien n'en sortira de bon. Mais elles permettent à tous ceux qui rejettent ce système capitaliste, à la fois exploiteurs et fauteurs de guerre, d'exprimer leur colère et leur dégoût. Le vote pour Nathalie Arthaud est avant tout un vote de combat. Ce vote signifie que les travailleurs ne devront compter que sur eux-mêmes, qu'ils devront s'unir, quelle que soit leur origine, pour mener des luttes massives pour défendre leurs intérêts dans cette période de plus en plus agitée. Oui, les travailleurs ont une force considérable, car ce sont eux qui portent la société sur leurs épaules. Nathalie Arthaud ne se présente pas pour gérer le système, mais bien pour le renverser. Voter pour Nathalie Arthaud, c'est affirmer que les exploités doivent se préparer à renverser le capitalisme qui mène l'ensemble de l'humanité à la catastrophe.